France Musique. Open Jazz, Alex Dutille, France Musique.
Bonsoir à toutes et à tous, et nous allons être en très bonne compagnie, effectivement, dans Open Jazz, pas parce que je suis là, mais parce que je reçois Vincent Lekuang. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Alex.
Il y avait des années que j'attendais de vous recevoir, parce qu'il y a des années que j'attendais que vous sortiez votre premier album. Bravo, merci, il était
merci.
Temps.
Il était temps, effectivement.
Pourquoi avoir attendu si longtemps, Vincent, même si vous êtes un jeune musicien encore hein.
Oui, je ne sais pas, de moins en moins jeune, mais...
Moi aussi.
En tout cas, ça a été quelquefois le hasard des rencontres qui ont donné lieu à des groupes qui ont plutôt co-signé les albums. C'était le cas avec Jeanne et Bruno Ruder, Jeanne Adède et Bruno Ruder pour Yes, It's a Pleasant Country. C'était le cas pour le duo avec Vincent Perani aussi. Et aujourd'hui, voilà, c'est mon projet plus que celui des trois autres.
Et puis quand vous avez joué avec Daniel Humer et Ricardo Delfra, ils étaient peut-être jaloux que vous ne vouliez pas de vos propres ailes, ils avaient envie de vous garder avec eux.
Oui, je ne sais pas. En tout cas, ça a été pour moi des moments très, très précieux à la fois d'apprentissage et puis de compagnonnage. Oui.
Votre album s'appelle Everlasting, il sort sur le label La Buissonne, il n'y a que des compositions originales, on va les écouter. Et pour fêter l'événement, parce que le premier ça se fête évidemment, encore plus que les suivants, vous êtes venu avec 10 exemplaires de cet album, sorti donc chez La Buissonne. Et j'ai bien entendu une question à poser à nos auditrices et auditeurs pour qu'ils se départagent, pour savoir qui seront les 10 heureux gagnants. Voici la question à laquelle il faut répondre par l'onglet « Contactez-nous » sur la page Open Jazz, sur francemusique.fr, avec nom, prénom et adresse complète pour recevoir le CD. L'album de votre album, Vincent Lekuang, est enregistré donc au studio La Buissonne, c'est à Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse, un studio qui a d'ailleurs plus de 1000 enregistrements à son actif aujourd'hui. Et de plus, cet album est publié sur le label La Buissonne, initié et dirigé par le célèbre ingénieur du son Gérard De Haro. Et vous êtes, avec cet album, Everlasting, la 38e référence.
Oui, c'est vrai.
En voilà rosé. Et l'enregistrement le plus ancien, publié par le label, La Buissonne, c'est un disque en solo. Eh bien, ma question est celle-ci. De quel musicien s'agit-il pour ce disque solo qui est l'enregistrement le plus ancien du label La Buissonne? Première hypothèse, le contrebassiste Jean-François Génie-Clerc. Deuxième hypothèse, le saxophoniste Dave Liebman. Troisième hypothèse, le pianiste Stéphane Oliva, lequel a signé un enregistrement en solo très tôt pour le label La Buissonne. Jean-François Génie-Clerc, Dave Liebman ou Stéphane Oliva. Vous sentez pas quelque chose? Moi, je sens l'odeur du buis, Vincent Lekuang.
Thank you.
L'odeur du buis avec Vincent Lecoing au saxophone soprano. C'est une composition de Joe Kwitzke, le batteur du quartet, qui sort cet Everlasting aux côtés de Vincent Lecoing. Vincent Lecoing au saxophone soprano, Bruno Ruder au piano, Guido Zorn à la contrebasse et Joe Kwitzke à la batterie. Vous avez choisi, Vincent Lecoing, pour ce premier disque, l'une des formules les plus classiques du jazz, le quartet saxophone piano basse batterie, sauf qu'à l'arrivée, ce qu'on entend est tout sauf classique. Vous êtes d'abord, on vous a beaucoup connu au soprano, maintenant, on va vous entendre dans un instant, vous jouez aussi en l'assumant complètement le ténor, avec un vrai son de ténor, comme il y a un vrai son de soprano. Mais j'entends dans ce quartet un travail sur le son, justement, très particulier, très délicat. C'était le sens de votre démarche ?
Oui, c'est même pas vraiment une démarche, dans le sens où je crois que c'est une préoccupation des quatre musiciens du quartet. Quand j'entends Guido, quand j'entends Joe ou Bruno jouer, il se passe toujours, ils font toujours les uns comme les autres le nécessaire pour qu'on les écoute. Mmh. Il y a une espèce de on est assez vite captif de ce qui est joué, et je pense que cette constatation et ce respect mutuel aussi qu'on a les uns pour les autres fait que peut-être, au final, il y a cette lisibilité, peut-être, et ce souci que chaque effort porte d'une manière un peu précise dans la musique.
Il y a une intensité dans l'écoute les uns des autres aussi, oui. Pas simplement dans l'émission du son.
Mm-hmm. Oui, ça c'est un mot, effectivement, qui est très important pour moi, en tout cas, cette notion d'intensité qui est vraiment très différente de de l'énergie pure. Même s'il faut de l'énergie pour l'intensité, mais j'aime bien prendre souvent cette image de que dans la nuit, la moindre braise se voit très bien, quoi. Et donc ça, c'est vrai que c'est une image que j'ai pu partager même avec les copains du quartet pour mettre en mouvement la musique.
Et avec un ingénieur du son comme Gérard de Harrault, on l'entend même crépiter, la braise. Fleur, une composition de Vincent Lecoing.
Thank you.
fleurs. Eh oui, il arrive que les fleurs chantent. C'est une composition de Vincent Lecoing, qui cette fois-ci était au saxophone ténor, avec toujours Bruno Ruder au piano, Guido Zorn à la contrebasse et Joe Kwitzke à la batterie. Un deuxième extrait de ce Everlasting. D'ailleurs, la quasi-totalité des compositions sont de vous. Il y en a une de chacun de vos camarades, sinon, dans l'album Vincent Lecoing. Là, vous êtes passé au ténor, vous avez surtout joué du soprano dans les dernières années. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous jeter avec autant d'amour du son du ténor sur le saxophone ténor ?
Alors, l'amour était là depuis le début, mais il y avait peut-être une appréhension à se mesurer à tous les colosses qu'on connaît avec cet instrument.
Il y en a au soprano déjà aussi.
Et il y en a aussi au soprano, ça c'est certain. Et ce qui m'a appelé finalement vers la voix grave du ténor, c'est la relation à la batterie.
Expliquez-moi ça.
C'est Daniel Humer qui m'a un jour pointé le fait que les tomes de la batterie, ils s'exprimaient dans la tessiture du ténor. Et que, avec le ténor, j'étais complètement en lien organique avec la batterie, alors que, avec le soprano, comme il aimait le dire, on saupoudre un peu plus. Et Daniel, il a souvent une manière très direct et éventuellement énigmatique de dire les choses. Et puis, et moi, au contraire, j'ai besoin d'un peu de temps, de réflexion, d'intégrer les choses les unes et les autres. Et puis, une fois cette remarque faite, l'expérience de jeu avec un quartet de jazz, et en particulier avec mes camarades du quartet, m'a montré qu'effectivement, il y avait une place pour cet instrument et une place dans le sens du contact sonore et du contact musical avec les trois autres. Et puis donc, ça a été aussi le concours de circonstances, le fait de devoir m'arrêter à un moment dans ma pratique du saxophone à cause d'une maladie de poumon, un problème de poumon, et qui a fait que j'ai dû reprendre très progressivement et que le ténor a été tout indiqué, en fait. Et alors, il y a eu à la fois ce côté... Je m'attelle finalement à ce qui m'a longtemps fait rêver. Et en plus, ça avait quelque chose de guérisseur en même temps. Alors c'était le meilleur des deux mondes.
C'était dans le deuxième extrait de ce Everlasting de Vincent Lecoing avec Bruno Ruder, Joe Kwitzke et Guido Zorn qui sort donc sur le label La Buissonne. Vous êtes très nombreux à essayer de bien répondre à la question que je posais tout à l'heure pour trouver la bonne réponse sur ce premier album en solo qui aurait été publié chez La Buissonne entre Jean-François Génie-Clark, Dave Liebman et Stéphane Oliva. Réponse et nom des gagnants tout à l'heure. Vous avez commencé, Vincent Lecoing, évidemment, l'étude du saxophone quand vous étiez gamin par le saxophone alto. Et bien voici un grand classique. C'est un inédit. Un concert de Johnny Hodges à Paris, le 13 mars 1961. C'est publié chez Frémo et il joue Mood Indigo. What's up? 13 mars 1961, Johnny Hodges au saxophone alto, Harry Carney au saxophone baryton. Mais c'est les deux autres saxophones de la famille. Ouais. Finalement, Vincent Lécoin, on manque plus que le saxophone à nut, beaucoup plus rare. Et Johnny Hodges sur ce Mood Indigo. C'est sous son nom qu'est publié cet album chez Frémo dans la série Live in Paris, un enregistrement à l'Olympia. Il fait partie des musiciens que vous avez écoutés, enfin les deux d'ailleurs, Johnny Hodges ou Harry Carney.
Oui, Johnny Hodges plus que Harry Carney, mais oui, je me rappelle même d'une piste, Cheap is Jeep is Jumping, en petite formation, où Hodges joue le soprano.
Et ne me dites pas que c'est le moment déclencheur où vous êtes dit pourquoi pas le soprano.
Non, ce n'est pas le déclencheur, mais en revanche, ça a été une révélation pour une voix lyrique au soprano. Ouais. Et ça m'a permis d'entrevoir quelque chose que j'essaye de poursuivre, je crois.
Ouais. En tout cas, on entrevoit beaucoup de lyrisme dans votre Everlasting, Vincent Lécoing. Donc, vous jouez et du soprano et du ténor. Ben, je vais remettre le couvert sur un saxophoniste alto. C'est une autre nouveauté du label new-yorkais Smoke Sessions, qui est adossé au Club Smoke de Manhattan. C'est signé Vincent Herring, le saxophoniste alto, qui a déjà une belle carrière, avec comme vous un trio piano-basse-batterie. C'est Cyrus Chestnut, Yasushi Nakamura pour la contrebasse et Jonathan Blake à la batterie. Doudis Dilemna, c'est une composition de Vincent Herring. Thank you. C'est une composition du saxophoniste Vincent Herring, saxophone alto, avec ce trio très club de jazz new-yorkais. Il y a vraiment l'atmosphère. Ça a été enregistré d'ailleurs sans public, au Smoke, le club de Upper Manhattan, avec Cyrus Chestnut au piano. Une grande tradition de ces pianistes un peu soulful, avec à la Bobby Timmons de l'époque. Yasushi Nakamura est à la contrebasse et Jonathan Blake à la batterie. C'est sorti sur le label du club Smoke Sessions Records. Quand vous entendez ça, Vincent Lecoin, vous dites il faut être un jazzman américain pour jouer comme ça, ou c'est juste une tradition du jazz de laquelle vous avez un peu envie de vous échapper, vous, peut-être?
Je ne me pose pas les questions en termes de s'échapper. Là, je trouve ça très beau de mise en place, d'articulation.
De naturel,
et en même temps, ouais, cette fausse décontraction qu'il y a, cette énergie dans la décontraction. Et effectivement, ce qui me frappe, moi, c'est de se rendre compte à quel point on entend que pour ces musiciens, c'est une tradition qui est complètement vivante et qui vit dans leurs instruments. Et que un musicien comme moi essaye d'engranger. Par la pratique, par l'écoute, par des situations, mais qui reste voilà, un effort tendu vers quelque chose, alors qu'on sent que pour eux, je serais intéressé de leur poser la question où est l'effort pour tendre vers cette musique et où est le naturel pour eux, parce que je ne suis pas certain que les curseurs se placeraient aux mêmes endroits que pour nous, musiciens français, mais sans doute, enfin vraiment, ça se discute, ce serait un bon sujet de...
Bon, la prochaine fois que je rencontre Vincent Herring, je lui poserai cette question, en lui disant que quelqu'un me l'a suggéré, qui s'appelle Vincent Lecoing. Dites donc, Vincent, on a la réponse et les noms des gagnants à la question que je posais, pour savoir quels sont les 10 heureux bénéficiaires de Everlasting, que vous sortez sur le label La Buissonne. Alors vous savez qui c'était ce musicien qui a enregistré en solo pour le label La Buissonne. C'est un enregistrement de 1994, d'ailleurs, qui est sorti 10 ans plus tard sur le label. Alors, c'était qui?
Jean-François Jenny Clark.
Voilà, Jean-François Jenny Clark, qui était, comme vous, l'est aujourd'hui, enseignant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Et vous l'avez à peine croisé, je crois, quand vous êtes, vous, arrivé.
Voilà, enfin, j'ai commencé à étudier là-bas l'année après son décès, en fait. Et donc, je me rappelle très précisément du concours d'entrée que j'avais passé, c'était en février. Et le soir du concours d'entrée, il y avait un concert en hommage à
Jean-Jean-Jenny Clark qui venait de disparaître.
Au New Morning, voilà, avec Dave Liebman, avec François Janot, Daniel Humer, Jean-Paul Celéa. Je ne savais pas encore que j'allais être étudiant là-bas, encore moins professeur. Et j'étais à ce concert, en tout cas. Voilà.
En tout cas, il a laissé une vraie trace dans la mémoire de tous ceux qui l'ont vu jouer et qui l'ont connu comme être humain aussi. Bonne réponse donc donnée par Jean Falquet à Rennes, Martine Bellia à Menton, dans les Alpes-Maritimes, Valérie Chen de La Chapelle-sur-Erdre en Loire-Atlantique, Paul Pablo Pratt de Paris, Raphaël Delorme de Roanne dans la Loire, Stéphanie Janssens de Breuil dans l'Eure, Charles Beck de Mulhouse, Antoine Scapilati de Nancy, Régine Honin de Dijon et enfin Claire Giraud de Sélange, c'est en Belgique. Ah voilà, ben je crois qu'il y a des petites dédicaces en cours de la part de Vincent Lecoing.
Open Jazz. Alex Dutille, France Musique.
Il n'y a pas longtemps, je recevais ici, Vincent Lecoing, Pierrick Pédron pour la sortie de son 50-50 à l'occasion de ses 50 ans tout court. C'était les New York Sessions, il était enregistré là-bas. Mais ces jours-ci, il est en concert ici avec un quartet français. C'est Florent Nice à la contrebasse, Carl Morisset au piano et Élie Martin-Charrière à la batterie. Ils sont jeudi au festival Jazz à la Harpe. C'est à Nîmes-et-Vilaine, c'est à côté de Rennes. C'est le club de jazz de la Ferme de la Harpe, jeudi donc, et samedi à 21h, ça sera en streaming sur les réseaux sociaux, ce concert. Et puis le jeudi 10 jusqu'au dimanche 13 juin, il sera avec ce même quartet, Pierrick Pédron, au Sunside à Paris. Eric Pedron, Mr. Takagi, c'est un extrait de son album 50-50, première partie, puisqu'il nous promet une deuxième partie avec des musiciens français. Eric Pedron avec Sullivan Fortner au piano, Larry Grenadier à la contrebasse et Marcus Gilmore à la batterie. Il sera jeudi à Rennes, au festival Jazz à la Harpe, et du 10 au 13 au Sunside à Paris, du jeudi 10 au dimanche 13, et dans l'intervalle, le samedi 12, les micros du Jazz Club de France Musique et d'Yvon Hamard. Ils seront pour un direct le samedi 12 entre 19h et 20h. C'était notre volet club et festival. J'imagine, Vincent Lécoing, que vous avez envie de faire vivre ce quartet aussi dans les clubs et les festivals. Mais ça doit être dur en ce moment de se refaire une place. Mais vous sortez un premier album, c'est un événement. Il y a des gens qui vont se laisser convaincre, j'espère.
J'espère grandement, effectivement. Mais c'est vrai qu'on a retardé un petit peu la sortie du disque. Avec Gérard, on s'est demandé quel serait le meilleur moment. Et puis, à un moment, il faut bien se dire, la chose existe. Voilà, donc on a choisi de le sortir. C'est vrai que malheureusement, actuellement, on n'a pas de concert de sortie. On a quelques perspectives, mais pour janvier 2022, en Bourgogne-Franche-Comté. Mais voilà, d'ici là, j'espère que l'agenda va se remplir, parce que c'est évident que la musique du quartet, elle vit sur
scène. Elle gagne à être jouée,
bien sûr. Elle gagne à être jouée. C'est d'ailleurs une musique qu'on a déjà jouée pour certaines compositions, et auxquelles on a donné une existence toute nouvelle, parce que l'outil studio, dirigé en plus par Gérard Dehart, nous a permis de repenser quelquefois la structure des choses, de suggérer de nouvelles histoires avec les mêmes ingrédients. Et finalement, ça a changé même la forme des compositions, certaines fois. Et c'est pourquoi maintenant, la scène nous manque, forte raison.
On va en retrouver pas mal, notamment cet été, avec heureusement les festivals. C'est le festival de jazz à Vienne va fêter ses 40 bougies, figurez-vous. Et pour souffler ces 40 bougies, ils ont eu l'idée d'un livre qui sort demain, qui s'appelle « Jazz à Vienne, 40 ans d'émotion ». Il est écrit par Vincent Bessière, avec la collaboration du directeur artistique du festival aujourd'hui, qui est Benjamin Tanguy. Et ça permet, c'est très illustré, il y a des photos de toutes les éditions et des commentaires sur toutes les éditions. Et ça commence comme ça, en 1981. Le début du chapitre dit « Tout avait commencé l'année précédente par une nuit du blues qui aurait pu virer à la catastrophe. Que d'eau, que d'eau, que d'eau. » Et puis ça continue sur l'édition 81. Une fois en scène, Art Pepper illumine la nuit d'un éclair violent et magnifique pour ce qui restera l'un des concerts les plus marquants de toute l'histoire du festival. Le voici en solo sur Body and Soul, à peu près à la même époque, Art Pepper. Thank you. Body and Soul, c'est Art Pepper en solo dans son album Artworks, qui avait été publié sur le label Galaxy à l'époque, et c'était en 79. Il a été donc l'un des concerts les plus marquants de l'histoire de 40 ans de jazz à Vienne, lors de la première édition en 1981. Il allait disparaître en juin 82, donc on est là sur la fin de la vie de Art Pepper. Et vous, Vincent Lécoin, qui enseignez l'improvisation générative au conservatoire, comment vous trouvez cette façon de se lancer dans un standard éculé et d'en sortir quelque chose avec beaucoup de tâtonnements, et à l'arrivée, on a un petit bijou?
Ouais.
C'est ça l'improvisation, hein.
Oui, c'est ce qui me frappe à l'écoute de ça. C'est évidemment, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est la qualité des silences. C'est la façon qu'il a de pas simplement rendre ses silences utilitaires, parce que nous, au saxophone, il faut qu'on respire entre chaque phrase. Mais lui, ses respirations, elles arrivent, me semble-t-il, vraiment avant qu'il en ait réellement besoin d'un point de vue physiologique. Et j'ai l'impression qu'elle arrive à un moment où il se pose une question. Il se dit, cette phrase, non, je ne peux pas la résoudre comme ça. Il vaudrait mieux que j'aille ailleurs. Et il se donne ce temps de silence dans lequel on l'entend penser. On l'entend se dire, non, là...
Le cours de sa pensée.
On suit le cours de sa pensée. Et tout d'un coup, cette musique-là, c'est vraiment de la pensée en mouvement. Ça dépasse de loin simplement le respect d'une règle ou le respect d'une convention. C'est vraiment... Et on suit une pensée, plus qu'on écoute un son.
Et dans votre enseignement, il recouvre quoi, le terme générative, pour l'improvisation, Vincent Lécoing?
C'est un terme que qu'Alain Savouret, qui avait créé cette classe. Alain est un compositeur électroacousticien, instrumentiste, pianiste aussi, et qui a réfléchi beaucoup à l'héritage de Pierre Schaeffer. Ça doit vous parler ici à la radio,
bien sûr,
forcément.
À France Musique, absolument.
quelque part, dans son traité des objets musicaux, Pierre Schaeffer dit, je crois, au studio, l'entendre précède le faire. Et Alain a voulu, dans un clin d'œil, hommage à Schaeffer, dire ben, dans la classe dont je vais m'occuper au conservatoire, puisqu'il avait été missionné pour améliorer la transversalité au sein du conservatoire, comment faire pour que l'écoute, l'entendre génère le faire. Donc c'est finalement un changement de point de vue, mais dans lesquels on travaille forcément les notions de relation au passé, à la tradition, et comment aussi on interroge le musicien dans sa relation à l'écoute et à l'instant présent.
Eh bien, c'est un joli programme. Je me demande si je ne vais pas me demander à aller faire la saison prochaine sur les bancs du conservatoire.
Ah, ça sera un grand plaisir.
Mais je ne suis pas sûr de passer le concours d'entrée. Merci Vincent Lecoing. On va se quitter en écoutant l'extension du fameux Organ Power Trio de Gaël Aurelou, une formation avec Fred Nardin à l'orgue et Antoine Paganotti à la batterie, Gaël Aurelou au sax alto. Et bien, il vient de sortir un quintet Organ Power en invitant deux musiciens en plus, le trompettiste Pierre Drevet et le tromboniste Simon Girard. Le Hageton, c'est une composition de Gaël Aurelou. Jeton, c'est une composition de Gaël Aurelou pour cet album qui sort chez Fresh Sound, Organ Power avec un point d'exclamation. Les formules saxophone avec l'orgue, ça fait partie de la grande tradition du jazz, mais je crois que vous êtes bien content de votre formule très acoustique avec le piano, basse, batterie et surtout ces trois musiciens-là, Vincent Lecoing, Bruno Ruder, Joe Kuitzke et Guido Zorn.
Oui, c'est une aventure pour eux. Qui dure maintenant depuis 12 ans et je crois qu'on se nourrit beaucoup les uns des autres. Le disque porte mon nom, mais mais c'est une aventure du quartet, c'est certain.
Vincent Lecouang, Everlasting, chez La Buissonne, avec moi pour faire cet open jazz ce soir. Alexandre Billard, U2 Diego Ac Lopez, Gérard Chan, Emmanuel Lacaze, Marjolaine Portier-Kaltenbach et Fabien Flora. Demain, dans Open Jazz, ça sera le nouvel album du clarinettiste Yom. Et vous verrez, Vincent Lecouang, lui aussi, il aime beaucoup les silences. Merci Vincent Lecouang.
Merci.
À réécouter sur francemusique.fr.